Bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles sans plus tarder dans le premier livre des Rois, au chapitre 19 et au verset 1. Je suis vraiment encouragé, non seulement parce que vous avez chanté que vous croyez dans les promesses de Dieu, que vous avez confiance en lui, et toutes sortes de choses quand même qui, lorsqu'elles sont vécues, quand même nous ouvrent la porte des promesses. Et parce qu'en plus, le Seigneur, même pendant le temps de prière, a confirmé ce message, m'a encouragé, et je crois qu'il va nous encourager à tous ce soir. Un roi, chapitre 19, verset 1er. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit: « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit: « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles: « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit: « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit: « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. » Amen. Amen. On va prendre un deuxième texte, dans Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11. Ce premier texte qu'on a lu, vous le gardez en main. Il nous servira pour le développement de ce partage, et j'aimerais qu'on prenne ce texte, ce deuxième texte dont on se servira pour la conclusion, un texte qu'on connaît très très bien, Jérémie 29, 11. Le peuple est dans une situation misérable, en captivité à cause de son péché. Il est là dans des situations difficiles, mais le Seigneur lui dit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Projet de paix et non de malheur, afin que vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Vous croyez que c'est toujours le cas, que Dieu a de bonnes choses pour chacun d'entre nous, un avenir, de l'espérance? Il n'a pas des projets de malheur, mais de bonheur, de paix, de félicité. C'est cela qu'il a pour chacun d'entre nous. On a lu une histoire bien particulière, un récit, quelque chose qui s'est vraiment passé. Un jour, un homme de Dieu, ce prophète Élie, s'est retrouvé en situation de désespoir. De désespoir. Vous avez lu aussi comme moi que Jésus a dit ceci, Jésus a dit: demandez et vous recevrez. Vous l'avez vu? Non? Vous lisez la Bible? Il a dit ceci: demandez et vous recevrez. Et là, on peut voir, heureusement, que Dieu n'a pas exaucé Élie. Qu'est-ce que vous en pensez? Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Heureusement que Dieu n'a pas exaucé Élie. Est-ce que Élie avait fini son travail sur la terre? Pas du tout. Encore après, on voit qu'il va devoir oindre pour roi de Syrie, quelqu'un pour roi d'Israël, quelqu'un d'autre, pour prophète à sa place, un autre homme, etc. Le Seigneur, des fois, il n'exauce pas nos prières. Pourquoi? Des fois, on demande pour satisfaire nos désirs, mais quelquefois, on demande simplement parce que dans nos cœurs, on est plein de désespoir. C'est le cas d'Élie. Élie s'est retrouvé sous ce jeûne, plein de défaitisme, de déception. Il est là, il ne comprend pas, il est en questionnement. Il préfère même la mort à la vie. Pourtant, c'est un homme de Dieu. Ce qu'il a fait juste avant devrait nous montre quand même quelqu'un plein d'assurance, plein de confiance en Dieu. Il sait que Dieu va l'exaucer. Il démontre devant plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers, je crois, de personnes. Il démontre que Dieu est vraiment l'Éternel, le vrai Dieu, que les autres, ce ne sont que des statues, que des idoles, mais qu'ils ne sont pas vivantes, mais qu'il y a un vrai Dieu. Et il veut ramener le peuple à Dieu, et voilà qu'il fait quelque chose, et Dieu approuve ce qu'il fait, il fait descendre le feu sur l'autel d'Élie. Et les prophètes qui avaient invoqué pendant tant de temps leur Dieu, eh bien, se sont retrouvés bêtes, sans réponse de leur Dieu, et voilà qu'ils vont être mis à mort, même par Élie. Il y a 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et tous y sont mis à mort. Et voilà qu'Élie, alors qu'il est fort de cette expérience, il va se retrouver dans un moment de désespoir. Quelqu'un le menace, une femme, et il va prendre la fuite. Il va partir juste après cette magnifique expérience, il va prendre la fuite. Et il va se retrouver dans le désert à souhaiter la mort. Moi, ça me rassure. Si un homme de Dieu comme Élie a pu vivre ces choses, bon, Jérémie, t'es pas si anormal que ça. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour chacun d'entre nous, on peut dire, bon, des moments de blues, de désespoir, où on voit plus rien, où on est en plein état d'esprit de défaitisme, où on est sapé par le moral, par les difficultés, les circonstances, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais le Seigneur l'a pas laissé comme ça. C'est une bonne nouvelle, non? Même dans nos épreuves, le Seigneur est là. Même dans les tempêtes, Jésus est dans la barque. Hein? Et il est là dans la barque, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Ben, il attend qu'on le sollicite, il attend qu'on se tourne vers lui. Dans cette barque, c'est vrai que Jésus dormait, il a fallu aller le chercher. Mais là encore même, Dieu a eu pitié d'Élie, il est même envoyé un ange, l'ange de l'Éternel, il s'est présenté. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose que Dieu a fait pour Élie, auquel on pense peut-être pas souvent, c'est vrai. La première chose, comment? Il l'a réveillé, c'est vrai. Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas le temps de dormir, c'est ça qu'il a fait? Non? Est-ce qu'il a fait des reproches à Élie? Non. Ça aussi, c'est rassurant. Si Dieu nous voit plein de désespoir, plein de tristesse, Dieu ne nous condamne pas, Dieu ne nous fait pas des reproches. Mais alors, j'avais besoin de toi là-bas, tu n'y es pas, alors c'est l'heure. Non, il ne fait pas ça. C'est vrai qu'il l'a réveillé, mais pourquoi faire? Pour qu'il puisse voir qu'il lui avait préparé un gâteau. Bon, il aurait pu envoyer les corbeaux, ça s'est vu à un autre moment. Il aurait pu envoyer des corbeaux, il aurait pu envoyer la manne du ciel. Il a carrément fait un gâteau. Et ce gâteau, il ne l'a pas mis en vrac comme ça sur le sol, il l'a mis sur des pierres. Et sur des pierres chauffées. Pierre chaude. Vous avez vu le soin que Dieu prend de la personne quand elle est en difficulté? Et vous ne le voyez peut-être pas, mais ouvrez juste un peu les yeux. Voilà, vous dormez, ouvrez juste un peu les yeux, vous allez voir, tiens, une bonne odeur, ça sent bon par ici, un gâteau, tiens. C'est vrai, le Seigneur est tout prêt. Réalisons que le Seigneur est là, même dans nos difficultés. Il a préparé un gâteau sur des pierres chauffées. Et même, en plein désert, une cruche avec de l'eau. Et il se met à manger, à boire. Et puis Élie, il se rendort. Comme quoi, des fois, on ne comprend pas au premier coup. Et Dieu persévère. Dieu est bon envers nous. Et sûrement qu'il avait besoin de sommeil. Est-ce qu'on réalise que la première chose que Dieu a fait, c'est répondre à ses besoins physiques? Dieu ne s'est pas attaqué de suite au spirituel. Là, on voit que Dieu a quand même pris soin de son corps. Combien de fois on oublie que notre esprit, l'esprit que Dieu nous a donné, il habite dans un corps humain, un corps de chair, et un corps même qui a été atteint par le péché, et qui subit la fatigue, qui subit même la maladie quelquefois, tout ça. Mais le Seigneur veut prendre soin de nos corps. Est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui? Bien sûr, il est toujours vivant. Et on pourrait être de plusieurs à raconter comment Dieu a pris soin de chacun d'entre nous, dans notre corps, dans notre santé. Il prend soin de son corps. Est-ce que c'est bien de prendre soin de son corps, quand même? Moi, je crois que c'est même important. Dieu le demande. Est-ce que c'est bien de comprendre que notre corps a besoin de se reposer? Il y en a, ils culpabilisent quand ils dorment. J'ai mon oncle qui ne connaît pas le Seigneur. C'est un travailleur. Et quand il dort, il a l'impression de perdre du temps. Du coup, il dort 4 heures par nuit. 4 heures. Il y en avait un autre qui dormait même peut-être un peu moins, hein, Napoléon, à ce qui paraît. Il dort pas beaucoup de temps et il a l'impression de perdre du temps. Alors, ça paraît honorable, mais moi, j'y arrive pas à 4 heures. On a besoin de sommeil. Mais est-ce que c'est normal d'avoir besoin de sommeil? Moi, je crois. En plus, quand on est fatigué, déçu dans une situation comme celle-là, on a besoin de sommeil, c'est normal. Faut pas culpabiliser, et c'est un des premiers besoins. Est-ce que c'est bien de laver son corps? Moi, je crois que c'est important de se laver, d'avoir une certaine hygiène, une santé, de se brosser les dents, on le dit aux enfants. Hein? Toutes ces choses, c'est bien. C'est une bonne chose, prendre soin de son corps. Est-ce que c'est mal de mettre un peu de parfum? Oh, il est mondain, elle est mondaine. Mais non, c'est bien. Il est même dit, quand tu jeûnes, parfume-toi. Un peu de parfum. Est-ce que c'est mal de mettre un peu de maquillage? Ma femme, je l'aime comme elle est. Nature, etc. Mais quelquefois, elle se déguise. Non, elle se maquille. Elle se met les boucles d'oreilles, elle est à côté, c'est pour ça. Elle se fait belle. Et elle me dit, c'est pour toi que je me fais belle. Ça fait plaisir. Mais est-ce que c'est bien? Non. Faut pas vivre pour ça. Mais quand même, prendre soin de son corps, c'est normal. Avoir des lunettes. Aller se faire contrôler la vue, etc. C'est des grâces que Dieu nous donne d'avoir toutes ces choses. On n'a pas à négliger ou à juger ceux qui en bénéficient, moi le premier. Hein. Le corps, très important, mais pas que. Mais pas que. On voit qu'Élie, après qu'il soit restauré par cette nourriture céleste, une bonne nourriture, Dieu prend soin du corps, il lui a donné tout ce qu'il lui fallait, il va se lever et il va continuer sa route, marcher pendant 40 jours, 40 nuits. 40 jours. Un gâteau comme ça, j'en veux tous les jours. 40 jours, 40 nuits. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il arrive? Il a eu le temps de réfléchir, il aurait pu se dire, oh, j'ai vu un ange, j'ai vu un ange, l'ange de l'Éternel, j'ai eu un gâteau du ciel, j'ai eu un gâteau divin celui-là, il m'a donné des forces extraordinaires, une cruche bien préparée, le Seigneur même, il prend soin de moi, allez c'est bon, je suis reparti. Et non, prendre soin du physique, ça ne suffit pas. Et ce n'est pas parce que le physique va bien que l'intérieur va bien aussi. Et Dieu voit aussi nos besoins intérieurs, invisibles à l'œil nu. Il voit ce qui se passe dans nos cœurs. Il connaît nos âmes, il voit la santé de notre esprit, il veut prendre soin de tout notre être, tout entier. Et malgré le temps qu'il a eu, 40 jours, 40 nuits pour réfléchir, il arrivait à Horeb, la montagne d'Horeb, la montagne de l'Éternel, et il va se retrouver, il va se mettre dans une caverne, dans une grotte, j'appelais ça une grotte. Il se met comme ça dans une caverne. Il va dans ce lieu et apparemment il n'avait pas de projet bien particulier, il est juste dans ce lieu. Et voilà que Dieu l'interpelle, l'Éternel lui parle. Il entend une question. Des fois dans nos problèmes, peut-être c'est le cas de quelqu'un, dans un problème fatigué, il ne comprend pas les circonstances, il se retrouve dans des soucis, des épreuves, alors que tout marchait bien, d'un coup tout va mal, où il ne voit plus que le mal, il a l'impression d'être tout seul et il se retrouve là et il aurait peut-être beaucoup de questions à poser à Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Des fois, on a beaucoup de questions, on ne comprend pas. Seigneur, explique-moi si, pourquoi ça? Mais c'est l'inverse. C'est Dieu qui lui pose une question. Le Seigneur lui pose une question et il lui dit, que fais-tu ici, Élie? C'est tout simple. Est-ce qu'il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Non, toujours pas. Même s'il l'a béni physiquement, il continue à lui parler, mais qu'est-ce que tu fais là? L'air de dire un petit peu, allez, on va s'asseoir ensemble. Qu'est-ce que tu fais là? Où tu en es? Tu es là dans ton problème, dans ta caverne, où il fait sombre, où il fait humide. Tu es là dans tes soucis, tu es isolé, tu t'écartes, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Et puis il va raconter, il va être honnête, il va être vrai avec Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien d'être honnête? Le Seigneur, il dit d'avoir un cœur honnête et que c'est ces cœurs-là qui portent du fruit, dans laquelle la semence, la parole peut porter du fruit. Parce que la foi vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Jésus. Mais il faut un cœur honnête. Est-ce que c'est mal de dire à Dieu ce qu'on pense vraiment? On ne manque pas de respect à Dieu, attention. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais des fois, dans la tristesse, on dit des choses, on dit « je ne comprends plus, moi, il se passe ci, il se passe ça ». On décrit un peu notre situation comme on la voit. Comme Job, qui a décrit, à des moments, il dit « je ne comprends pas, pourtant, si on m'éprouvait, je, etc. » Et c'est ce que va faire Élie. Il va dire « j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. » J'ai servi Dieu, moi je suis un serviteur de Dieu, j'ai donné tous mes efforts. J'ai eu un zèle pour l'Éternel. Le Dieu des armées, je sais qui est Dieu moi. Car les enfants d'Israël, les autres, ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. voilà, les autres, ils t'ont abandonné, mais moi, j'ai déployé mon zèle et je pensais que ce que j'allais faire, là, tu vois, ce feu qui est descendu, je pensais que ça allait tout régler. Mais voilà qu'une femme, s'en prend après moi et on veut me faire mourir. Il le dit, hein. Je suis resté seul. Je suis resté seul, moi, et il cherche à m'ôter la vie. Il cherche à m'ôter la vie. Pourtant, avec une démonstration pareille, c'est pas normal, Seigneur, qu'ils n'ont pas compris qu'on cherche à m'ôter la vie. Et pourquoi tu permets ça? Et pourquoi ci? Et pourquoi là? Il va, comment dire, répandre son cœur devant Dieu. Il va expliquer son problème. Et parce que Dieu l'aime, Dieu va s'occuper de lui. Et je crois que ce qui suit, c'est pas une autre explication, c'est la réponse à son problème. Dieu lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne. C'est-à-dire, tu vas sortir, mais tiens-toi dans la montagne. L'Éternel passe devant. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a trois événements un peu surprenants qui se passent devant l'Éternel, qui passent devant lui. Qu'est-ce qui se passe? Le vent qui déchire les rochers. Ça, c'est du vent. La tempête. Juste après, le tremblement de terre. Ensuite, le feu. Et dans ces trois choses, il nous est dit que Dieu n'était pas dans tout cela. Pourtant, c'est qui a fait ces choses? C'est Dieu. Et après, il va y avoir un murmure doux et léger. Et Élie va comprendre que c'est le moment de sortir. C'est comme ça qu'il peut sortir de la caverne. Et toutes ces choses nous enseignent un petit peu sur comment sortir de notre problème. Comment sortir? À quel moment? Est-ce qu'il pouvait sortir quand il y avait le vent qui déchirait les rochers? Ben non, c'était pas la peine de sortir. Il allait être emporté, être écrasé. Est-ce que c'était le moment, quand il y avait le tremblement de terre, de sortir? Non, il était dans une montagne, il y avait sûrement des choses qui lui seraient encore tombées dessus. Est-ce que c'était le temps, quand il y avait le feu, de sortir? Je peux vous dire que non, ce n'est pas le moment de sortir. Je sais ce que c'est que le feu, ce n'est pas le moment de sortir. Mais par contre, dans un murmure doux et léger, là, il a pu sortir. Et c'est comme ça qu'il a pu sortir, qu'il pourra sortir de ses problèmes. Après s'être occupé du physique, après lui avoir laissé le temps de réfléchir quand même, après qu'on voit que ça n'a pas changé quand même le fond du problème, on voit que Dieu va s'attaquer à l'essentiel. Et il va lui dire, tu vois, toutes ces démonstrations de puissance, toutes ces choses qui montrent quand même que je suis Dieu, parce que c'est lui qui les a faites, toutes ces choses qui montrent que je contrôle la nature, les événements, les choses, montrent que je ne me plais pas dans des choses comme ça qui viennent démontrer pour tuer. Dieu peut faire des belles choses, même des miracles, après tout. Dieu peut les faire. Dieu fait tout ça. Est-ce que c'est bon, les miracles? Je suis le premier à vous dire oui, parce que dans ma vie, j'ai vécu des choses quand même que Dieu a faites. Même des bonnes choses, des démonstrations comme ça. Mais le fond du problème, les problèmes du cœur, ne partent pas parce qu'on sait que Dieu est tout puissant. Parce que Dieu, il est grand puissant, il peut faire remuer les montagnes, faire trembler la terre, envoyer son feu. J'aurai la paix dans mon cœur quand je saurai que Dieu est amour. Quand je saurai que Dieu fait grâce. Il y a un autre moment où Moïse va se trouver dans une caverne, je ne sais pas si c'est la même. Et Dieu va lui dire, je vais t'enseigner une loi, une autre chose, une loi, la loi des lois. Une loi qui est au-dessus des autres, c'est que je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et Élie, on le voit, avait perdu la paix, avait perdu toutes ces choses. Pourtant, il s'était donné à fond, il s'était donné de tout son cœur. Mais dans son cœur à lui, il y avait quelque chose qui l'avait séparé de la communion avec Dieu. Séparé de cet amour. Il avait commencé à faire les choses, et on le voit juste avant. Je crois que son problème, il est là. Quand il a agi pour Dieu, il s'est mis à se moquer de ses prophètes. Pour lui, c'était plus important si des prophètes y mouraient. Pour lui, une âme n'avait plus de valeur. Pour lui, ces prophètes, ils méritaient la mort. Il s'est moqué d'eux. Il a dit, alors invoquez, il se moque, on voit, il se moque, etc. Il est dans quelque chose, on le voit que, même si Dieu l'utilise pour lui dire au peuple, mais reviens, même si c'était normal que ces prophètes reçoivent la colère de Dieu, est-ce que dans son cœur, il n'a pas oublié que Dieu avant toute chose, au-dessus de toute chose, Dieu était amour. Dieu voulait donner la paix. Dieu voulait faire grâce. Qu'est-ce qui a marqué le ministère de Jésus? Est-ce que c'est parce qu'il a fait tuer tous les pharisiens, tout le monde qui était mauvais, tous les religieux? Pourtant, est-ce que ce n'était pas Jésus, lui, le saint, le parfait? S'il y en avait un qui pouvait dire aux anges ou à Dieu, tiens, punis ces personnes, c'était lui. Est-ce que Jésus a fait une seule fois une prière pour punir quelqu'un? pour souhaiter le malheur de quelqu'un. Il a toujours parlé pour leur faire réfléchir sur leur situation. Ils n'ont pas voulu entendre. La jalousie a grandi dans leur cœur et plus ils parlaient, plus ils étaient en colère. Mais Jésus n'a jamais prié pour que d'un coup le feu descende sur eux. Des apôtres s'en sont chargés, des disciples. Veux-tu pas qu'on prie pour que le feu du ciel descende ? Ah, ils étaient zélés, hein. Le même feu, vous savez qu'Élie, ah, le feu est descendu, d'accord. Tu veux pas qu'on revienne, le feu, comme ça, ils n'ont pas voulu t'accueillir. Eh bien voilà, on va prier pour que le feu descende. Jésus dit, mais non, je suis pas venu pour perdre les gens. Et dans l'évangile, il y a une part de message qui dit, oui, la colère de Dieu va s'abattre sur le monde. Qui a rejeté Dieu, qui n'a pas voulu de son amour. La colère de Dieu va s'abattre sur lui. Mais le grand message, c'est quand même une bonne nouvelle. N'est-ce pas ? Le grand message doit être en premier le salut du monde, le salut des pécheurs. Et Dieu va leur amener dans un moment et dire, tu sais, toutes ces démonstrations de puissance, ce n'est pas que je me plais à punir, ce n'est pas que je me plais à envoyer ma colère, ce n'est pas que je me plais à voir les gens mourir, spirituellement ou physiquement. Ce que j'aime, c'est quand des gens sont justes et que je peux les approuver. Vous savez comment je le sais, ça ? C'est ce qu'il dit juste après. Parce qu'il pose une deuxième fois la question à Élie. Il dit, que fais-tu ici ? La réponse, elle est la même. Vous prenez les mots, c'est les mêmes. Il n'a pas compris ce qui s'est passé, tous ces événements. Moi, je n'ai pas compris jusqu'à ce soir. Ou plutôt cet après-midi. Je n'ai pas compris. J'ai dit, bon, il veut sûrement parler des choses, c'est vrai. Mais je crois que l'explication est juste après. Il dit qu'il y aura trois personnes qu'il va oindre. Les trois personnes vont faire tomber sous leur épée des gens. Première chose, c'était quoi ? C'était le vent impétueux qui va détruire les rochers. Deuxième, le tremblement de terre. Troisièmement, le feu. Et moi, je vois un roi de Syrie, un roi d'Israël et un prophète, Élisée. Et les trois nous parlent de la condamnation de Dieu, la colère de Dieu. Et la quatrième chose qu'il va lui dire, mais il y en a que je garderai, 7000, qui ne se sont pas prosternés devant les idoles. Il y en a 7000 qui n'ont pas fait ça, qui ne sont pas souillés. Il y a un reste, il y a de l'espoir. Et tu sais, même si ces gens vont tomber sous l'épée, c'est pas ça que je me plais. Dieu, il aime pas se mettre en colère. Pourquoi il a qu'une hâte, c'est que les gens, ils se repentent? Parce qu'il veut les bénir, les gens. Parce qu'il veut les sauver, parce qu'il veut leur faire du bien. Il a créé les hommes, c'est pas pour les détruire. Dieu a un message d'amour. Et le zèle qu'on doit avoir, ça doit être un zèle de paix, un zèle d'amour, un zèle de joie. Et est-ce qu'Élie, est-ce que quelquefois nous-mêmes, on ne crie pas vengeance à Dieu ? Tu vois tout ce que j'ai fait moi, et pourtant je cherche encore à ma vie. Et puis voilà, j'ai fait tous mes efforts, je pensais que ça allait porter du fruit. Je pensais qu'ils allaient tous plier devant toi. Et puis au travers, vous verrez que moi, je suis aussi l'envoyé de l'Éternel. C'est ce qu'il a dit. Vous verrez que l'Éternel est Dieu et que je suis bien son envoyé. Alors je ne veux pas mal interpréter la vie d'Élie. Je ne veux pas non plus jeter un soupçon, mais quand même. On voit qu'il se met à se moquer. Est-ce que Jésus s'est moqué une seule fois ? Jamais. Est-ce que Jésus il a failli une seule fois ? Non. Est-ce qu'il a souhaité le malheur ? Non. Et quelquefois, c'est même envers nous qu'on voudrait une punition. Seigneur, je suis un bon à rien. Je mérite la mort. Seigneur, tu vois, je mérite ta colère. De toute façon, je ne peux plus être pardonné parce que je suis trop souillé, je suis trop sale. Je mérite l'enfer. Et certaines personnes renoncent à la grâce de Dieu parce qu'ils ne croient plus au pardon de Dieu. Et la colère, bien sûr, ils ne la veulent pas sur les autres, mais ils la veulent sur eux. Et il y a des gens qui se détruisent et qui vont à fond. Ils disent, de toute façon, quitte à aller en enfer, autant que j'y aille pour quelque chose, je profite de la vie. Quelle folie ! Quelle folie ! Alors que Dieu, il est là dans son amour. Il nous rappelle la croix. Il nous dit, mais j'ai donné mon fils pour toi. Tous tes péchés peuvent être pardonnés. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous sauver. Quelquefois, au travail, ça ne va pas. Seigneur, punis-le. C'est pareil, les autres, il ne veut pas les perdre. Il dit au contraire de prier pour que Dieu nous donne le témoignage, qu'il les touchera, qu'il fera, qu'ils feront volte-face, ils se convertiront comme au ski quand on fait une conversion. On fait demi-tour, on est dans une direction, on va dans l'autre sens. Et on doit souhaiter le bien autour de nous. Est-ce qu'on a encore en tête que Dieu, au travers de nous, veut bénir les autres, veut faire de nous des témoins ? Alors dans mon cœur, j'aurai une joie parce que je vais me mettre à parler aux malheureux. Je vais voir déjà qu'il y a plus malheureux que moi et je vais lui parler. Et puis je vais savoir que j'ai un message d'amour, un message de paix. Et plus je vais en parler, plus je vais en être convaincu. Parce que c'est la parole de Dieu. Et une paix va s'installer. Et puis, Alors qu'il est dehors, il lui rappelle ça. Il lui dit, voilà, on pourrait le lire, hein. Verset 15, « Va, reprends le chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel et Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Et là, Élie va pouvoir partir. Parce que même s'il sait qu'il y en a qui refuseront de se repentir, qu'il y en aura qui subiront la colère de Dieu, il sait qu'il y aura un reste. Il y a de l'espoir, parce que Dieu est amour, parce que Dieu veut sauver, parce que Dieu garde ses promesses à toujours, et il y aura un reste pour Israël qui sera sauvé. Oui, la descendance de David va bien avoir lieu. Oui, la promesse de Dieu va bien s'accomplir. Et peut-être qu'aujourd'hui on est désespéré, quelqu'un se dit, mais je voudrais que Dieu convertisse tout le monde, et plus je vais prier, plus Dieu va convertir les gens. Mais les gens se convertissent. Par contre, je dois prier pour eux, c'est vrai, pour que Dieu travaille déjà leur cœur par son esprit. Mais même si Dieu ne convertit pas tout le monde, si tout le monde ne se convertit pas plus tôt, le Seigneur va en sauver quelques-uns. Ce qui va germer, ce n'est pas notre problème. Semons. Sème. Certains vont regarder à la saison, à la période où ce n'est pas le moment. C'est pas... Toi, t'inquiète pas. Sème. Ce qui poussera. Ce qui devra pousser, poussera. Ce n'est pas ton problème à ça. Il y en a qui sème, il y en a qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et ça, nous, on ne peut pas le faire à sa place. Peut-être quelqu'un est découragé. Je pensais que tous mes efforts, tous les évangiles que j'ai distribués, tous les tracts, toutes les choses que j'ai faites pour toi, aller porter du fruit, je suis découragé. Seigneur, à quoi bon rester sur la terre? Mon témoignage ne sert à rien. Vous ne le voyez pas, mais Dieu agit au travers de vous. Puisse-t-il agir vraiment de toute sa force? Nous sommes la lumière du monde. On n'est peut-être qu'un lumignon, mais Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume. Gardons espoir. Et pour nos vies, Dieu prend soin de nous. Dieu ne nous abandonnera pas. Le message que nous avons reçu, le témoignage que nous devons porter, ce n'est pas le message de la colère de Dieu seulement. Ça, c'est une part. Il faut avertir. Tu es une sentinelle. Si tu n'avertis pas, leur sang retombera sur ta tête. Ça aussi. Il y a une mission, il y a une responsabilité. Mais le message qu'on doit porter, c'est un message d'amour, un message d'espoir, un message de grâce, un message de paix. C'est là que Dieu se plaît, dans ces choses-là. Quand il dit que Dieu n'était pas dans ces choses, ça ne veut pas dire que ça ne venait pas de lui. La colère vient de Dieu aussi. Ah, je croyais que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais justement, celui qui ne veut pas de son amour, il ne lui reste que la colère. Tandis que celui qui veut de l'amour de Dieu, il reçoit en même temps le pardon de ses péchés, le pardon pour son âme, la paix de Dieu, la grâce de Dieu, ses besoins, le Seigneur pourvoira, on l'a vu physiquement, mais aussi spirituellement. Peut-être qu'Élie avait besoin d'être cadré, peut-être que nous oublions la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, et on voit sur nous que la colère de Dieu, que la sainteté de Dieu, ah Dieu est saint, il est saint, ah oui j'ai fait telle chose, je ne mérite plus, je suis malheureux, je suis seul, Dieu ne m'aime plus. C'est impossible que Dieu ne vous aime plus. Parce qu'avant même de vous avoir sauvé, de vous aimer, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Avant même qu'on se soit donné, qu'on les rencontrait, il nous aimait, car Dieu a tant aimé la moitié de la terre. Non ? Le tiers-monde. Ou alors l'Orient, l'Occident. Non, il a aimé le monde entier. Le Seigneur, Dieu nous aime. Il vous aime à vous. Ne fixez pas vos regards sur la loi, hein, on l'a vu. Monsieur Go en parlait aussi. C'est vrai, la montagne d'Horeb, il y a eu la loi qui a été donnée. La loi. Et Dieu est apparu dans un feu, avec des tremblements de terre. Les gens avaient peur de Dieu. Vous savez, j'ai pensé à des choses qui pourraient empoisonner notre cœur. Premièrement, ce vent qui passe, etc., c'est la vengeance, comme un vent terrible. Quand on veut se venger, c'est terrible. Il y avait dans la parole de Dieu le vengeur ou les vengeurs. Il ne fallait pas tomber dans leurs mains. La vengeance, le tremblement de terre, la peur. La peur, ces choses empoisonnent notre cœur. On n'a pas à avoir peur de Dieu. Le diable vous a trompé si vous avez peur de Dieu. Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu veut vous pardonner, veut vous sauver. Il est encore temps aujourd'hui. La preuve, on est encore là. Il y a encore cette réunion. Peut-être que c'est le feu, la colère de Dieu, le feu. La colère de Dieu qui descend, etc. La désapprobation, le témoignage de Dieu qui dit non, je ne suis pas d'accord. Ou des fois le feu qui descend pour dire oui, là j'approuve. Approbation, désapprobation, des gens sont morts dans le feu de Dieu. D'autres, ils ont vu le feu comme une bénédiction, comme un signe d'approbation. Je crois que c'est signe de témoignage. Le feu de Dieu qui est là. Non, Dieu ne veut pas qu'on ait peur de sa colère, il veut nous délivrer de la colère. Il a détourné sa colère de nous pour la mettre sur son Fils à condition qu'on croie dans l'action de Jésus-Christ sur le bois de la croix. Il s'est donné pour nous. C'est comme si j'avais un t-shirt tout blanc et j'étais plein de taches dessus, tout sali, et Jésus a pris mes taches, il les a pris, il les a mis sur sa robe à lui. Et il est venu vers chacun, il a pris les taches et il les a mis sur lui. Et puis voilà que le châtiment devait tomber, il a dit « Voilà, c'est moi qui ai les taches, prends-les, c'est sur moi. » Et il a subi le châtiment qui nous donne la paix, parce qu'il est le prince de la paix. Voilà le message de Dieu. La paix, l'amour, la grâce, la miséricorde, le pardon de nos péchés. Mais bien sûr, si on refuse ces choses, il ne reste plus que la colère de Dieu, parce que Dieu est saint et aucun homme n'est saint. On a tous besoin de la grâce et du pardon de Dieu au travers de Jésus-Christ son Fils, puisqu'il est le seul intermédiaire, il est le seul à avoir pris nos tâches et avoir supporté les condamnations que méritaient ses péchés. Amen. Merci Seigneur encore de nous rappeler ces choses simplement ce soir. Peut-être avons-nous été aveuglés par le mérite, je dois mériter, ou les gens doivent mériter ton salut, lui ne mérite pas, elle ne mérite pas, je ne mérite pas. Peut-être qu'on a été aveuglés par l'amertume, par ces choses-là, Seigneur, que notre zèle s'est transformée en zèle amer. Peut-être même que tout simplement on ne sait plus aimer soi-même parce qu'on n'a pas compris que tu nous aimais. Ce soir tu nous rappelles que ton amour est infini, qu'il ne varie pas, qu'il ne change pas et que tout est accompli pour notre salut. Je veux me souvenir de ce texte, Jérémie, tu as des projets de paix et non de malheur afin de nous donner à tous un avenir et de l'espérance. Merci Seigneur, et tu dis encore, c'est vrai, en Colossiens 3, tu dis, Seigneur, que nous devons nous nourrir, Seigneur, de sentiments d'amour envers les autres. Je souhaite, Seigneur, que ce ne soit pas que des chants que nous chantions, des paroles que nous disons en l'air, mais que nous croyons vraiment à ta parole qui nous révèle, qui nous rappelle encore ce soir. Que tu nous aimes à chacun, que le message qu'on doit porter, c'est de l'amour, que nos gestes doivent transpirer d'amour pour les autres, Seigneur, parce que nous sommes tes témoins, nous sommes les canaux que tu utilises pour transmettre ta bénédiction et ta parole. Oui, que cette parole, Seigneur, crée la foi dans nos cœurs, puisque c'est ta parole, que cette parole puisse mettre des convictions dans nos cœurs, pour que nous soyons assurés lors de l'épreuve, que tu es avec nous, près de nous, pour prendre soin de nous. Oui, Seigneur, quelquefois, nous souhaitons toutes sortes de démonstrations, de vengeance, de colère, où nous avons peur de toi. Seigneur, délivre-nous de ces choses. Ouvre-nous les yeux sur le besoin que nous avons de nous reposer en toi, de nous présenter dans un moment de silence devant toi, dans un moment à chercher ta paix, à recevoir la paix que tu as promis, que tu laisses et que tu donnes. Mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci d'avoir envoyé ton Fils. Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour ma vie qui est si misérable, si petite et qui pourtant est d'une si grande valeur à tes yeux. Et tous nous pouvons faire la même louange, Seigneur, ce soir et te dire merci, Seigneur. Personne n'est exclu de ta grâce. Personne n'est exclu, Seigneur, de ta bénédiction et de ton pardon. Que tous se mettent à croire et croire au-delà des difficultés, au-delà des épreuves et au-delà des circonstances. Comme Élie, Seigneur, qu'on puisse tous reprendre le chemin, encourager, aller parler de toi, aller simplement faire ta volonté. Et si on doit annoncer ta colère à certains pour qu'ils se réveillent, et bien qu'on le fasse, mais qu'on n'oublie jamais d'annoncer en même temps et avec ton amour et le pardon qui est possible en toi. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen.